Bienvenue à la French Connection épisode 78. Nous faisons un dernier épisode pour 2018 sur lequel nous allons faire une espèce de drama plus comique, plus drôle et en même temps instructif sur l'année qu'on vient de passer. Je suis avec Patrick.
Hey, salut Nick.
Hey. Et on ne fera pas trop de plugs cette fois. On va commencer directement dans le vif du sujet. Essentiellement, pour moi, 2018, c'est un retour à 2001. Ou encore dans un état de sécurité qui, ma foi, est un peu décevant parce que malgré tous les efforts, les énergies, les frameworks, les bug bounty, name it, qu'on a sorti depuis, tu sais, sur les 15, au moins 15 dernières années, on est dans un état de situation qui est désastreux ou encore on a eu des leaks d'informations massifs cette année. On a même le RGPD a réussi même pas à ralentir quoi que ce soit encore. Pas de façon mesurable encore, selon ce que Damien nous a dit jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que tu en penses?
Non, exact. Puis si vous avez écouté le dernier épisode, justement, avec Damien qui parle de tous les leaks de l'année, qui a, je pense, une affaire comme 5 milliards de lignes de log leakées. Ça ne veut pas dire 5 millions de user password, mais de data en tant que tel. Méchant bordel, pour une année qu'on est supposé d'être beaucoup plus avancé avec beaucoup de technologies qui s'en viennent très, très, très user-friendly pour sécuriser nos comptes, nos technologies et autres. Comme tu dis, je pense qu'on fait un beau retour dans le passé. Puis ça, c'est un des thèmes que qu'on a les dernières années au DEF CON. Il y a toujours un genre de talk de pentest qui dit « il n'y a rien qui a changé depuis les années 90, c'est les mêmes bugs un peu tout le temps. » Mais je pense qu'on est encore là. La seule différence que j'ai vue, perso, c'est si on parle de la bug web, ben est-ce que l'injection est disparue un peu? Ça a pris quoi? 18 ans avec que ça disparaisse à peu près? Début 2000, cette année, l'année passée. Mais à part ça...
Même encore là, c'est comme tu disais, qu'on dit que ça répète puis ça revient toujours sur les mêmes affaires. Moi, j'avais eu la révélation, je pense, au DEF CON 15 ou 16. Quand que toutes les applications web ont été devenues de plus en plus populaires, ce que je voyais, c'était le retour de tous les bugs en C qu'on avait vus dans les années 90, début 2000.
Exact, puis je pense que c'est exactement ce talk-là que je voulais faire référence. Je ne sais plus du titre, mais quand la technologie change, peu importe c'est quoi la nouvelle tech, bien, les anciens bugs de l'ancienne tech sont transférés, puis on recommence. C'est le même concept avec l'IoT qu'il faut le dire, là, cette année, l'année passée, on énormément explosé dans les ventes en ligne et dans les magasins, là, tous les objets connectés dans les maisons. Et dans les types d'objets les plus sécuritaires, mais on ne les retrouve pas, les IoT, là, sont loin derrière parce que justement, c'est des petites boîtes fermées, puis le budget n'est pas là. Le budget étant créer des boîtes, puis les réaliser le plus vite possible pour créer des startups.
C'est ça, c'est créer, aller chercher de l'argent le plus vite possible au détriment de tout ce qui va se passer, au détriment de tout ce qu'il y a de ça. Puis d'ailleurs, moi, ce qui m'agace énormément au niveau du IoT, puis ce qui fait que j'adopte très lentement le IoT, c'est que j'ai été obligé de consommer un service nuagique à chaque fois que j'utilise une affaire comme ça. Ça m'irrite pas possible parce qu'on se met dans la main. On se met nos données dans une compagnie qu'on n'est même pas sûr qu'ils font ça. Puis généralement, une fois sur deux, dans l'année, il y a un leak chez cette compagnie-là en question que, dans le fond, toutes nos données de IoT sont diffusées. Puis pff.
Ouais, exact. J'ai deux IoT chez moi, les concepts des gens de Google Home, là, les petites machines que tu es supposé de leur parler. Le bouton est à mute, c'est à off tout le temps. C'est vraiment juste utilisé comme un speaker. Puis l'autre, pour la première fois que j'ai connecté en ligne, une télé intelligente, hey, ça peut pas être pire cochonnerie comme système. De un, monsieur, madame, tout le monde, qui sont très bons en technologie, en informatique, méchante patente pour pas que ça marche. J'ai eu de la misère à le configurer moi-même. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Hey, puis c'est développé par Google, là. C'est du Android TV. J'étais comme, wow. Faut vraiment être... Je sais pas c'est qui dans Google qui a designé le workflow de config, là. Mais c'est un des pires que j'ai vu dans les 5-6.
Ouais, mais Google, ils sont pas les meilleurs. En UX, ils sont pas super king, ça.
À part Gmail, là.
Ouais, mais ça fait tellement longtemps que c'est là qu'ils ont raffiné de beaucoup. Mais tu sais, c'est en termes de UX, ou UI, en tout cas, l'expérience utilisateur, sont loin derrière Apple, par exemple. Fait que c'est très agaçant qu'il n'y ait pas d'autres compagnies qui aient ce degré de facilité-là à faire fonctionner. T'sais, moi, j'ai les seuls, les IoT que j'ai, c'est j'ai des HomePod, j'ai pour écouter de la musique.
Ouais,
c'est à peu près tout. Puis je tolère plus les HomePod que ceux de Google parce que la différence, ce que j'ai lu, et vous corrigerez si je me trompe, le déclencheur de Siri ne fait que démarrer l'enregistrement. Tant que tu ne fais pas ça, il n'enregistre pas. Il fait juste attendre.
Ouais, versus du Alexa et certains autres. Là.
Google et Alexa, c'est ça. Ils écoutent tout. Puis, quand ils l'attrapent, ben là, ils vont aller plus loin. Mais ils écoutent quand même tout. Fait que la petite différence, ça m'agace un peu moins. Dans la mesure où tout ça est vrai et tout ça que je n'ai pas de la fausse information, parce que ça pleut.
Oui, exact. Puis tu as beaucoup d'entreprises que c'est pas parce que dans leur manuel ils disent que c'est ça qu'ils font, que leur code est bien fait, puis c'est vraiment ça qui se passe. Mais tout ça pour dire que l'expérience UI user était extrêmement mauvaise. J'imagine pas la sécurité en arrière de ça, là. C'est terrible. Ça n'a aucun sens. Et l'upload de la mise à jour de la télé, je pense qu'elle a pris 15 minutes, puis j'étais en gigabit. Ça l'a aucun sens.
Ça, c'est terrible. Puis j'en ai une, mais un plus vieux modèle. Moi, c'est une... en tout cas, c'est une Aquos. Je ne m'appelle plus la compagnie en question. Là. Mais la télé a bug. Une fois sur 10, ça ne démarre pas. Ça démarre mal. C'est lent. Si j'ai le malheur d'aller sur une application, ça prend genre 5 minutes avant de charger. Genre, ils ont pas mis le processeur dedans. Fait qu'imagine qu'est-ce qu'on pense à la sécurité en plus. Fait que cette télé n'est pas branchée sur rien autre que sur le courant.
Oui, exact. Puis moi, même la mienne, je l'ai mis sur un Wi-Fi distinct. Là. Touche pas à mon réseau, s'il vous plaît.
Non, de gaz. Comme si les IoT, c'est, dans le fond, moi aussi, ils sont tous sur un réseau distinct pour justement éviter qu'ils commencent à foutre de l'amende sur mon réseau principal. Puis qui dit que les compagnies qui sont bien intentionnées dans la prestation de leurs services, viennent pas commencer à écouter chez nous, viennent écouter sur mon réseau, écouter sur mes affaires, commencer à faire des sons.
Ah oui, puis, tu sais, si on parle de Google avec whatever, leur IoT, que tu leur parles, ils scannent le réseau interne au complet, ils analysent tout ce qui se passe sur tout le réseau, puis ils envoient beaucoup, beaucoup de data. Tout ce qui est mieux, c'est haute, là, ça écoute, puis ça envoie pas mal tout ce qu'ils voient.
Ça fait pas juste écouter ta température, ça écoute ton réseau aussi.
Ça écoute des trucs sur le réseau pour voir, ben, j'ai pas le détail, mais c'est certaines choses pour voir la vitesse de ton réseau, voir ce qu'il y a sur ton réseau pour s'optimiser. Puis évidemment, tu sais, quand tu acceptes les terms au début, là, si tu lis pas, il y en a du stock là-dedans.
Il y a du poison là-dedans, là, mais non, j'avais ça, là, je savais pas pendant tout. Je pensais qu'il se limitait à écouter la température que tu as chez vous, puis à savoir.
Oh non, puis les Nest Cam, t'as des Nest Cam qui sont caméras, par défaut, ça, ils shoot beaucoup trop de trucs dans le cloud. Fait que dans certaines entreprises, j'ai travaillé, il a fallu les désactiver parce que c'est un bris de privacy.
Ça revient tout au fait que ce qui m'agace des IoT, c'est que ça envoie tout dans le cloud. À chaque fois, on se ramasse avec nos informations envoyées dans chez un tiers, qui généralement, c'est même pas moi aussi ce qu'il fait parce que lui, il veut juste faire de l'argent. Puis généralement, en plus, une partie de son service est gratuite. Fait que c'est sûr que s'il est gratuit, il va faire quelque chose avec nos informations de toute façon, en plus.
Oui, exact. Il y a beaucoup de reventes de toutes ces infos-là. C'est un peu terrible. Mais c'est ça, tout ça pour dire que tous nos bugs, présentement, sont poussés sur le monde du IoT. Mais même ce qui n'est pas IoT aujourd'hui, on en parle souvent, là, on ne veut pas répéter ce qu'on a dit dans toute la dernière année, mais tu sais, tous les bugs de sécurité au privé, au public et autres, on est encore loin derrière, là. Puis quand tu dis 2001, ben, on est pas mal dans ces années-là encore. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, ou ce que la sécurité manque beaucoup présentement, c'est le côté défense. On a beaucoup, beaucoup de fun, d'intérêt, de conférences, etc., qui focus sur tout ce qui est attaque. Puis même les trainings côté attaque, mais le côté défense, là, il est tellement loin derrière. Mettre en place des Security Operations Center qui font du sens, des sites de développement, etc. Pensez à la défense.
Merci de me lancer la balle comme ça.
Ouais, ouais.
On va monter un événement défensif.
Oui, exact.
À ton événement offensif.
Tout à fait. Puis nous, on essaie d'avoir du 50-50 offensif-défensif. Puis c'est un gros challenge de mettre pas le marketing, mais la vision de dire soumettez vos conférences défensives. Puis il y en a beaucoup qui en soumettent, pour vrai. Mais 90% de ce qu'on reçoit en défensif, c'est le même sujet, le même talk qu'il dit de manière différente avec des petites variations. Fait qu'on est obligé d'en refuser une méchante gang parce que sinon, ce serait deux journées complètes de les personnes qui disent la même chose. C'est un des gros problèmes qu'on a présentement, c'est que le focus, il n'est pas sur la défense, il est sur l'attaque, bien que les deux sont nécessaires, évidemment. Mais je pense pas que si on est 90% attaque, qu'on va régler beaucoup de problèmes de sécurité.
Non, puis c'est ça, puis c'est un peu moins sexy, mais ça fait longtemps, ça fait une éternité là, depuis que je travaille professionnellement en sécurité. Le sexiness, c'est toujours du côté d'attaquant, parce que c'est toujours, on arrive toujours comme « Ouais, j'ai réussi à casser ton système, bah, on est tout content. » Mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est le côté complexe, c'est de résoudre le problème de sécurité, donc de tomber en défensif. Ouais.
C'est des processus, c'est de l'humain, c'est de la manière de gérer les choses. Puis la seule chose qu'il ne faut pas penser, puis que malheureusement toutes les entreprises mettent en place, c'est d'acheter des boîtes magiques à 200 000, les plugger, puis penser qu'ils sont sécuritaires. On a trop eu d'exemples de ça, qui pluguent des machines à log, puis qui loguent toute l'entreprise, puis qui font rien avec. Là. C'est le classique.
C'est assez désastreux de penser que la sécurité se règle que par une boîte magique. Là.
Exact. Puis ça, c'est souvent fait, malheureusement, pour être... compliant à peu importe la norme ou les besoins gouvernementaux et autres. « Hey, avez-vous fait ça? » Ben oui, on l'a fait, on l'a installé. Mais au final, tu sais, faire de la bonne sécurité, des alertes, de la détection puis de l'incident response, il faut que tu ailles ces trois étapes-là. C'est une attaque à la fois qu'il faut que tu détectes. Tu peux pas genre plugger puis en avoir 12 000 à la fois. Tu n'as aucune idée de ce qui est normal sur ton réseau puis comment que les choses font. J'ai rarement vu ça en entreprise placée comme ça.
Oui, effectivement, mais ça prend énormément de réflexes. Mais ça demande...
Mais c'est un challenge compliqué.
Ça demande la réflexion.
Exact.
Les gens ne veulent pas réfléchir, ils veulent quelque chose, ils veulent un plaster qui est facile. Ils ne veulent pas réfléchir. Puis ça, c'est à grandeur, parce qu'on n'aurait pas eu des problèmes avec tous les leaks là, monumentaux qu'on a eu en 2018. Mm-hmm. Si moindrement les gens avaient un minimum réfléchi, l'hygiène de base, même les affaires d'hygiène de base du SANS en 2018 ne sont pas appliquées. Ce qu'on martelait au début des années 2010 n'est pas encore en 2018 appliqué, même à un niveau raisonnable.
Oui, puis ça me fait penser à un des points qu'on parlait vers 2010-2012. Que le côté offensif super avancé, reverse engineering, puis exploit dev. Qui est le côté sexy où ce que beaucoup de personnes se dirigent, c'est le côté le moins utile en sécurité parce que tu passes 2 ans à trouver un bug, un seul, puis tu essaies de le corriger lui, au lieu de passer 2 ans à corriger un concept ou une manière de faire qui corrigerait tout alentour, puis que le bug qui reste à trouver à reverse engineering, d'un, serait beaucoup plus complexe à faire. Puis de deux, son risque serait tellement plus faible si les trucs alentours seraient sécuritaires par défaut. C'est ça qui était le talk à Danny, il y a plusieurs requests, là, le broken by design. Tout est broken by design aujourd'hui.
Fait que, on est encore énormément là.
C'est souvent happy,
très, ouais. Très complexe. Mais tu sais, puis ça, il y a bien des années, je disais ça, puis j'avais l'air d'un rabat-joie. Mais tu sais, on disait, ouais, je vais faire un pet-test de mes affaires. Je dis, ouais, mais généralement, une simple revue d'architecture, va être capable de déceler à peu près 90% de tes problèmes en moins de temps, mais tu ne voudras pas plus les régler. Fait que, commence par regarder tes problèmes de design, puis après ça, on va voir, là, on ira mettre un pen test, puis on ira tester, puis on ira avoir du support, puis on ira casser.
Mais même avant ça, faut pas juste que tu checkes les problèmes de design, faut que tu penses à ton design de manière sécuritaire avant de checker les problèmes, tu sais. Ça, c'est encore un des gros problèmes, puis dans les grosses entreprises où ce que j'ai travaillé dans les dernières années, c'est le truc numéro un qui est discuté. C'est comment faire un design à partir de zéro, from scratch, de manière sécuritaire. Fait qu'au lieu de partir un projet, il faut le livrer là. Non, non, non. Pense à ce que tu veux faire. Puis la date de livraison changera si c'est trop long, on s'en fout. Puis c'est ça qui fait la différence d'un problème sécuritaire. C'est que si tu joues par la date de livraison pour faire de l'argent, tu te fais tirer dedans. C'est sûr que tu as besoin d'argent, mais si tu penses à ça, au départ, mais tout le reste va suivre. Tu n'auras pas l'affaire de gérer les bugs qui coûtent 100 fois le prix rendu en prod là, à corriger.
Entre autres ça, mais c'est ça, on revient toujours, si c'est bien designé au départ, ou en tout cas, si mm-hmm. est bon, généralement, on est capable de régler à peu près 90% du problème, et après ça, on peut s'adresser au cas limite plus complexe, plus raffinés, puis ils vont prendre énormément plus de temps à déceler par les méchants pirates. Mais au moins, si le design, la réflexion, le workflow, les autorisations, tout ça, puis un peu, c'est comme, on en a parlé dans les derniers épisodes de Charming Kitten, qui est une stratégie de cassage qui est juste un problème de configuration essentiellement, là, grossièrement.
Là. Ouais. Puis ça, c'est le Charming Kitten qui sont les attaques de phishing, là, state sponsored par l'Iran et autres, là, qui sont quand même vraiment bien développées et tout. Tout ça est basé sur le fait que les solutions de sécurité aujourd'hui offrent toujours une bypass. Tu sais, que quand tu as le 2FA, ben, si tu n'as pas ton téléphone proche de toi, ben, tu vas peut-être dire utilise telle autre fonction. Si ton application a mal été configurée, ben, envoie-moi-les par SMS. Tu as toujours un bypass en dessous qui est de moins en moins sécuritaire. Mais vu que l'application, la plupart les offrent toutes, est-ce que tu penses que les attaquants font? Ils offrent à l'utilisateur l'option la plus poche pour contourner celle-là qui est le plus sécuritaire.
Parce que c'est l'attaque de downgrade, comme on voyait dans plein d'autres affaires, comme SSL faisait, il y a plusieurs. Ben, il n'y a pas tant d'années que ça, finalement.
Non, exact. Puis même cellulaire et autres, là, les taux cellulaires, tu downgrades de 4G à 3G à 2.5 à whatever. Puis t'es rendu entre les textes.
Ouais, t'amènes le monde dans où tu veux les amener. Fait que tu t'es. C'est ça. Mais on est encore dans des états comme ça, ce qui est assez épouvantable en 2000.
Exact. Puis, tu sais, pour travailler dans ce domaine-là, le gros enjeu qui est travaillé présentement, c'est pas tant l'élément de la sécurité puis comment sécuriser les choses. Oui, ça en fait partie, mais c'est comment rendre la sécurité facile à tout le monde. C'est un peu pour ça que je parlais du problème de UI de la télé. Je veux dire, si j'ai eu de la misère à configurer une télévision pour configurer juste un compte de Google, là, c'est supposé être deux clics, mais ça m'a pris, je pense, 25. Là. Imagine quand c'est aussi long de configurer quelque chose qui est supposé être simple. Tu sais, le 2FA, c'est simple. Là. Tu payes sur le bouton push, tu fais accept. Mais le configurer pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est pas si facile que ça. Là. Prendre ton cellulaire, installer une application. Dans l'application, il faut être dedans, il faut que tu dises que tu ajoutes un compte. Après ça, tu scannes une image. Après ça, tu le confirmes. Après ça, tu fais ça. Hey, tu es rendu à 15-20 étapes. Mais le gros élément de la sécurité, c'est de rendre ça super facile pour quelqu'un qui n'est aucunement bon en informatique. C'est
ouais,
là que ça s'en va, qu'il faut
s'en aller, en fait. Oui, ouais, définitivement. Puis ça, moi, je suis entièrement contre l'idée qu'il faut instruire les utilisateurs à faire nos espèces de manœuvres.
Ah non, exact.
Être hyper complexe, c'est déjà moins bon. C'est un des aspects que j'aime où Apple essaie d'amener les gens avec un UX qui, généralement, amène les gens à se sécuriser sans trop de complications. Mais même encore là, puis on en a parlé lors du Hackfest, même rendu maintenant là, avec Mojave, c'est rendu désagréable parce que les pop-ups de sécurité sont rendus obscurs, sont rendus difficiles à comprendre. L'utilisateur ne comprend pas nécessairement. Puis on vient un peu à ce qu'on chalait sur Android il y a plusieurs années. C'est-à-dire que les permissions qui sont demandées à l'utilisateur sont trop complexes pour ce qu'il comprend vraiment de ce qui se passe.
Oui, il faudrait que ce soit un genre de sommaire qui explique ce que c'est. Au lieu des phrases de développeurs qu'on comprend rien.
Ouais, même Apple est rendu dans cet univers-là. Fait, je trouve ça un peu décevant qu'on en a perdu, que ce qui était pour moi un des meilleurs en UX pour ça. C'est pas en sécurité, mais en UX, de la sécurité. C'était deux choses. Qu'ils soient capables d'amener ça à une zone intéressante. Puis même eux l'ont perdu, puis on est rendu trop loin. Puis faut trouver une façon d'amener compréhensible pour les gens parce que le simple utilisateur oublie ça, ils sont tout perdus.
Ah, c'est game over. Puis tu sais, t'as beaucoup la phrase du humans are stupid and cannot be fixed. Là. Tu peux pas corriger. Je l'ai mal dit la phrase, là, mais.
Non, c'est correct, mais je suis entièrement d'accord avec cette phrase.
Whatever. C'est drôle quand tu es du côté attaquant, évidemment, parce que ton attaque va toujours être du côté utilisateur parce qu'ils seront jamais capables d'être parfaits. Mais du côté défense, tu peux pas dire que tes utilisateurs sont stupides et qu'ils comprennent rien. Non, s'ils comprennent rien, c'est parce que ton approche de leur expliquer est mauvaise. That's it.
Ouais,
c'est toi le bug.
C'est toi qui as raté ton coup, c'est toi qui as raté ta sensibilisation, ton éducation, des choses comme ça.
Donc, effectivement, ton design, ton UI, peu importe. Les users sont supposés le prendre dans ses mains, que ce soit sécuritaire. Là. Je donne toujours le même exemple qui est celui de la voiture. Tu achètes une voiture, il y a des freins qui viennent avec. T'achètes un ordinateur, ben, il n'est pas sécuritaire par défaut. Et là, la différence.
Il y a ça, puis je pense qu'un des problèmes qu'on a en sécurité en général pour la sensibilisation, c'est qu'on donne à des technologues de former des utilisateurs normaux, ce qu'ils sont tout à fait inaptes à faire. On devrait amener des gens qui sont spécialisés en éducation, qui sont spécialisés en formation, qui sont capables de faire passer un message. Ça, c'est, ils vont être capables de traduire un message complexe et difforme qu'on peut avoir comme technologue à un message qui est compréhensible par le commun des mortels sans pour autant diminuer la qualité du message.
Oui, puis si tu prends le concept de tout ce qui est le marketing des publicités sur Facebook et autres qui engagent des gens de psychologues pour savoir comment te faire rester sur la page le plus longtemps, hey, mettez ce monde-là pendant des mois et des années sur le problème de la sécurité du UI et du user. Je pense qu'on va régler pas mal de problèmes.
Pour le côté user, oui. De toute façon, de ce que j'ai constaté dans mon expérience de vie, c'est que ça prend à peu près une génération, c'est-à-dire à peu près 25 ans, avant que les habitudes des gens changent pour adopter des comportements qui sont, on pourrait considérer, plus sécuritaires. On n'a qu'à regarder avec l'alcool au volant, le fait de barrer ses portes à la maison. On fait plusieurs comportements comme ça qui prennent à peu près ça 25 ans avant d'être complètement... ramener un seuil très, très bas. Donc, ça prend du temps. Fait que pour nous, en technologie, il faut trouver une façon de soit leur donner des exemples réels, soit de donner une façon de connecter, que les gens comprennent que oui, c'est grave, que non, c'est pas vrai qu'on n'a rien à cacher. On a tous un petit quelque chose à cacher, si ce n'est que notre compte de banque est une information qu'on doit protéger.
Oui, exact. Puis, c'est quand le monde s'en va dire qu'ils n'ont rien à cacher, ben c'est qu'ils prennent par défaut qu'ils ne sont pas des criminels, mais c'est pas ça le point. C'est juste que si tout le monde renie la vie privée, quand il n'y a plus personne qui va l'avoir, ben là, tout le monde va chialer. Mais là, vu que ça n'affecte pas ta propre personne, ben c'est pas grave. Mais c'est pas ça le point, c'est que c'est supposé d'affecter tout le monde. C'est un concept de masse. Puis la sécurité, c'est la même chose. Si tout le monde se fout de sa propre sécurité, ben. Comme il se passe un peu présentement avec toutes les leaks, là. Ben, c'est ça qui arrive. Puis les entreprises ben, sont dans ce bug-là, dans ce mode-là plutôt, où ce que ils vont rien faire tant qu'il n'arrivera rien. L'heure n'arrivera rien. C'est ça, ils poussent toujours ça. Pas nous, c'est quelqu'un d'autre.
S'ils ne payent pas le prix, c'est pas... ils vont continuer. Tant qu'ils ne payeront pas le prix, ils vont continuer à faire ce genre de choses-là. Mais tu sais, c'est comme... On peut ramener les exemples de l'industrie automobile des années 70, je crois, où ils faisaient des calculs, le coût d'un rappel versus le coût de poursuite. Puis si le coût du rappel était supérieur au coût de la poursuite, ben ils laissaient un produit, une automobile tout à fait désastreux sur le marché. Je pense que c'est GM qui en avait un truck. Il avait mis, je pense, le réservoir d'essence est en dehors de la structure, en dehors du frame, ce qui faisait que, genre 9 fois sur 10, il y avait une explosion quand il y avait une collision. Donc, mais eux autres, pour eux, ça coûtait moins cher de payer les poursuites que de faire la modification et de faire les rappels nécessaires pour corriger le problème. Fait qu'on est un peu dans cette logique-là financière que les entreprises s'en sac. C'est pour ça que la RGPD a un potentiel de résorber ce genre de choses. Mais en même temps, on est dans un univers où on mécanise tout. Et étonnamment, là, on va dévier aussi sur la mécanisation des tests. Mais les attaquants mécanisent énormément, les attaquants comprennent les outils, savent comment les utiliser, mais les défenseurs n'ont pas ce degré de sensibilité-là. Puis les tests automatisés dans le code, qui n'ont pas l'air d'être une pratique qui est très si répandue que ça et qui devrait l'être davantage.
Oui, exact. Puis tu sais, quand on va parler d'automatisation, l'exemple qu'on parlait tantôt, là, justement, du phishing, là, les state sponsors et tout, t'as pas 200 personnes qui checkent les écrans et qui attendent que ça arrive. Là. C'est un code qui fait tout automatiser. Là. Ils n'ont rien à faire. Là. Ils passent 2 mois à le développer, ils pèsent un piton, ils vont faire d'autres choses. Puis tout le reste se fait automatique. Ils sont pas débiles. Là. Puis en défense, bien, c'est l'inverse. Ils sont là à attendre les alertes, puis il faut attendre que ça arrive pour le faire. Fait que, la game n'est pas faite. Puis quand on parle de code automatisé, t'as raison, c'est très peu répandu toute l'analyse statique puis dynamique pour la sécurité. Puis quand c'est là, le bug que j'ai souvent vu en entreprise, c'est que t'auras pas d'analyse de sécurité pour checker les résultats. Fait que ça va être un dev ou un gars de sécurité qui a aucune idée comment le code marche ou la sécurité marche, là, dépendant si c'est un dev ou un gars de sécurité. et va recevoir des rapports automatisés qui font aucun sens, qui veulent rien dire pour eux autres, puis ils vont essayer de corriger des bugs. Et qu'est-ce que tu penses qui arrive après? Ben, le bug qui a été corrigé partiellement ou pas du tout. Puis des fois, même
pas correctement.
Exactement, tu sais. Une manière de faire certains types d'attaques, des fois, il y a 40 bypass possibles si ce n'est pas corrigé à la source. Fait qu'ils vont corriger une porte sur 40, puis ben, ils n'auront pas revalidé. Ça aussi, c'est une chose en pentest. Souvent, ça s'en vient de mieux en mieux, là, mais quand tu offres un pentest à quelqu'un, il faut que tu offres un retest, de retester les patchs qui ont été mis en place. Les entreprises qui offrent ça, c'est plutôt rare, je te dirais. Les entreprises qui vendent du pentest, ben eux, c'est ce qui est plate, c'est que ça devient aussi du travail à la chaîne. C'est comme, il faut faire le plus de pentest, le plus d'argent possible, puis ils s'en foutent du résultat puis du client, puis s'ils corrigent leur affaire. C'est un peu pour ça que je suis parti de ce monde-là à la fin. Là. Ça n'avait plus de sens. Tu remets 15 rapports par mois, puis tu n'entends plus jamais parler du client, puis ce que tu vois plus tard, c'est qu'il est dans les nouvelles, puis il s'est fait péter sur quelque chose qui n'est pas corrigé que tu lui avais dit. T'sais. C'est comme, ça donne quoi?
Ouais, ça, c'est un peu triste, ce genre de choses-là. Puis effectivement, l'espèce de production à la chaîne. Mais ce qu'on, en tout cas, du moins pour le moment, puis les gens n'ont pas l'air de saisir cette nuance-là, puis on se parlait des boîtes magiques plus tôt. La sécurité, c'est très dépendant du contexte. Et c'est contrairement à bien des éléments en TI qui sont facilement mécanisables, facilement. Un certain nombre de choses qui sont faciles de prévoir, des choses comme ça. La sécurité est un des éléments où le contexte est très important, ce qui fait que un élément qui est grave chez un n'est pas grave chez l'autre, qui est grave dans un moment n'est pas grave dans un autre. Il y a un paquet de facteurs, c'est très, très, très contextuel. Puis d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un MSSP en sécurité pour gérer sa propre, gérer tes sondes, gérer ta sécurité, gérer des choses comme ça, parce que s'ils ne comprennent pas ton contexte, leur travail est virtuellement ne sert à rien. Puis un peu comme les pentests, s'ils ne sont pas contextualisés, le bénéfice réel qu'on en tire n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir.
Oui, exact. Tu retournes dans le mode que tu te fais donner une liste de bugs que tu ne sais pas quoi faire avec. Si quelqu'un qui analyse ton réseau, aucune idée c'est quoi qu'il y a sur ton réseau, puis qu'est-ce que ça peut être normal ou pas, comment tu veux qu'ils te disent que c'est bon? Fait que tu sais, tout ce qui est service partagé, comme tu expliquais, mais oui, ça aide les PME, là, je suis d'accord pour ce point-là, parce qu'ils n'ont pas le budget, blablabla, mais c'est tellement pas contextualisé qu'à part trouver les trucs automatisés qui viennent dans les packages là, des appliances magiques, ben le reste, ils ne le trouveront pas, parce qu'une vraie attaque qui est plus poussée, la personne va s'installer, oui, avec un exploit quelconque, ou du phishing ou autre, mais l'exfiltration de données, là, c'est relié au contexte de l'entreprise. Tu sais, quand on parle de Sony qui se sont fait vider des terras et des terabytes de données, des films et autres, tout le monde, la première réaction, c'est comme, « Hey, il y a eu des terras de données, c'est facile à trouver. » Sur un réseau, tu checkes le pic, mais la moyenne de terabytes sur ce réseau-là, parce que c'est une compagnie de films, l'exfiltration de ça, c'était une goutte dans l'océan. Mais oui, évidemment, oui. Si tu mets ce concept-là dans une entreprise qui n'a pas de trafic réseau, ben oui, il y a un pic, puis ça paraît. Mais tu vois, la même solution, c'est pas la même réponse à nulle part.
Ça dépend du contexte. Puis de toute façon, on, en ce sens-là, tous les cas des fraudes du président qui sont des exemples types sur le fait que c'est très contexte. Ça dépend énormément du contexte. Puis même, on peut aller dans un vol dans le monde réel où il y a, je crois, c'est 25 millions de dollars de CO d'érable qui se sont fait voler, mais en plein jour, par du monde. Puis rien de spectaculaire, puis ils sont partis avec, là.
Ah, c'était un des vols les plus pires de l'histoire, sûrement, en plus. Mais la fraude du président, je pense que c'est un des meilleurs exemples. La manière de faire cette attaque-là, c'est d'envoyer quelques courriels, faire deux, trois téléphones, savoir qui travaille pas, le rôle de la personne, puis de demander à la personne clé d'exécuter une action pour recevoir de l'argent. Tout ça avec un contexte d'urgence un petit peu, puis de dire telle personne n'est pas là, donc c'est toi qui dois le faire. Puis c'est game over. Comment tu veux détecter ça? Par des processus, mais un processus, il n'est pas sur ton réseau, c'est pas un exploit, c'est rien. C'est des triggers qui sont supposés d'être faits parce que quand c'est plus de temps d'argent, il faut une vraie approbation. C'est pas la secrétaire qui est supposée de transférer 5 millions.
Ouais, effectivement, mais ça, c'est une question que les entreprises n'ont peut-être pas posée suffisamment. On parlait de leur processus. ça revient, c'est les processus, c'est les choses. En cas de fraude au président, ben, qu'est-ce qui arrive? Si effectivement, est-ce que le processus est mal foutu parce qu'il a réussi à trouver une façon de forcer le processus pour aller plus loin que qu'est-ce qui était supposé. Donc, c'est, on revient toujours aux mêmes éléments.
Oui, exact. Puis, tu sais, quand on parle de toutes les SOC, la détection des attaques et autres sur le réseau, ça, c'est une des parties. Tu as beaucoup de pas de package, du code et autres qui vont être publics ou open source sur le web pour dire voici comment détecter du PowerShell ou tel type d'attaque, si c'est Mimikatz et autres. Ce qui est bien, c'est cool. Mais quand tu es rendu plus loin, ce que tu veux vraiment détecter, le vrai risque de l'entreprise, souvent, c'est pas tant l'attaque en tant que telle, mais c'est ce qui se passe après, puis qu'est-ce que les users font. Parce que si tu réussis à voler un mot de passe ou tu bypasses du 2FA, etc., tu te fais passer pour un vrai user dans le vrai réseau. Mais c'est à partir de ce moment-là que ta détection puis tes alertages devraient fonctionner. Mais ça, c'est du 100% contextualisé basé sur le behavior humain de tes employés dans ton organisme, ce qui n'existe pas dans aucune autre organisation, tu sais. Puis ça, ça dépend de tes départements, les rôles des utilisateurs, etc. Fait que, tu sais, l'exemple bidon, la plus facile, c'est de dire, mettons, tu as l'équipe de TI, s'ils accèdent des répertoires des avocats dans ton entreprise, bien, ça devrait lever un flag. Mais s'ils accèdent des centaines, mais là, c'est un méga flag, tu sais. C'est juste un concept de département, c'est du behavior. Mais là, tu peux pousser ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
Oui, effectivement. Puis je pense que ce qui est un peu frustrant pour certaines classes de gens en sécurité, c'est qu'on dépasse largement des problèmes techniques de base où je fais juste qu'un cross-site scripting fait jeter toute la compagnie à terre. Quand maintenant, on fait le cross-site scripting n'est qu'un élément dans une grande chaîne qui est beaucoup plus complexe que juste le cross-site scripting, qui va mener à quelque chose. Donc, c'est...
Exact. C'est comme un supply chain, mais d'attaque, finalement. Puis, c'est ça, les grosses attaques, là, si vous regardez les APT.
Ouais, c'est pour se dire que c'est avancé, c'est juste parce qu'ils sont capables d'enchaîner deux ou trois affaires de suite.
Exact. Il n'y a pas grand-chose d'avancé quand tu es au niveau attaque, là. Mais ce qu'ils font, c'est justement, ils vont utiliser un truc de base, soit pour contrôler le browser via un XSS, puis après ça, ils vont aller injecter quelque chose dans la page, ils vont voler les users, ils vont se connecter en tant que user normal dans le réseau, puis à partir de là, ils installent des malwares, puis c'est game over. Là. C'est pas très avancé quand tu vois ça, mais c'est les seuls qui font des multiple stages, là, des attaques à travers le réseau, puis à travers le temps. C'est surtout à travers le temps qui fait une grosse différence. Puis détection humaine, exact, sans détection de behavior humain, tu découvriras rien.
C'est toute une question de patience, ça. On avait parlé entre autres avec la Chine, qui sont énormément patients. En tant qu'Occidentaux, on a perdu toute patience. Donc, on regarde ce qui est devant, pas plus loin que notre bout de notre nez, puis on est déjà tout content. Fait que ce qui nous... prédispose pas à bien contrôler et bien déceler ce genre de problème-là dans nos infrastructures. Mais ça m'amène aussi à te lever un point intéressant sur le fait les bots magiques et le behavior, ben, tout le volet AI, parce que depuis 2-3 ans, on voit beaucoup apparaître les boîtes magiques de AI en sécurité comme quoi étant la solution magique, que ça va régler tous les problèmes, qu'on va tout détecter. Quand dans les faits, en général, ce que est du AI, et ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment juste l'analyse statistique. On a juste donné un mot qui est beaucoup.
Oh, ouais, c'est un algo qui parcourt un arbre que l'humain ne peut pas parcourir par lui parce qu'il y a trop de branches. C'est pas mal ça.
C'est à peu près ça, c'est ça. Puis il est capable d'analyser des choses à deux paliers, ce qu'on n'est pas capable. L'humain est de façon directe pas capable. Puis là, on pense que ça va être capable de détecter le prochain. Quand dans les faits, puis on revient encore, ça prend un humain parce que c'est juste un aide à la décision. Donc, ça prend un humain qui met le contexte.
Oui, le contexte est très important. Puis, c'est pas juste ça. Le code, la manière qui est développée, le contexte puis je me souviens plus le nom en français pour ça, mais le bias de la personne va créer un comportement dans le code qui n'est pas réel, qui n'est pas nécessaire plus tard. Puis ça, c'est juste la manière que la personne pense.
Le terme français, c'est biais. Fait que c'est juste la même chose.
Mais tu sais, Je travaille justement sur un des projets, j'aide là-dessus pour un genre de machine learning pour détecter des attaques. Puis la première phrase que j'ai dit quand je me suis fait inviter sur le projet, c'est « Hey, c'est super cool, ça va être la fun. Mais 90% de ce que vous allez faire, c'est générer des faux positifs. » Fait que votre job, c'est de trouver comment faire le moins de faux positifs possible. Puis le moins que vous allez en faire, il va toujours en rester. Puis il faut toujours quelqu'un qui vérifie à la fin. Puis ça... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des vrais positifs qui sont manqués, qui sont inexistants, puis qui sont. Tu sais, ça dépend comment c'est codé, ça dépend de ton échantillon d'analyse, ça dépend ça, tellement de tout.
Oui, puis ça aide donc que sur une grande pile d'informations, puisqu'on vit dans un univers où la quantité d'informations dans laquelle on est soumis est immense, où il y a 35 analystes qui passent à travers des logs comme des fous pour essayer de trouver quelque chose, mais un AI qui fait sa job-là et qui ramène, disons, vers 5 analystes. Qui est le plus probable d'être proche d'une attaque ou proche d'un problème. Donc, il a la job de filtrage de base, mais c'est pas lui qui va faire la full job.
Puis, ce qui est dangereux de ça, c'est que le filtrage que l'algo va faire ne veut pas dire qu'il est 100% efficace. Donc, il peut oublier des détails.
Aucunement.
Donc,
c'est pas magique.
C'est ça. Même ça, c'est pas magique, même si il y a beaucoup de publicité présentement là, que c'est la magie, là.
Oui, non, tous nos problèmes vont être réglés à cause du AI. Mais de toute façon, puis ça, j'aime bien l'exemple, parce que je suis allé dans une conférence qui en parlait, puis il disait qu'un des défis qu'il y avait, puis eux autres, dans leur cas, c'était une analyse au niveau du détection du diabète sur la base de génétique, voir qui était prédisposé sur base génétique au diabète, mm-hmm. ainsi de suite. Et le problème qu'on rencontrait, c'est que le AI, ce qu'il détectait, c'était pas les gènes, c'est qu'il détectait la machine qui faisait le séquencement génétique. Donc, il ne détectait pas la bonne affaire pantoute, puis ce qui venait biaiser complètement les résultats, ce qui fait qu'ils ont tous scrappé toute cette année de recherche-là, mm-hmm. parce que le AI est allé dans la pas bonne direction, il a focusé sur le mauvais indicateur.
Oui, exact. Puis j'avais vu même un article qui parlait des analyses là, de machine learning sur les scans là, radio X et autres. Je pense que c'est un cancer de poumon, du cerveau, là, whatever. Et le AI fonctionnait à 85-90%, ce qui était excellent, mais il y a beaucoup de cas qui ne détectaient pas, donc qui ne sortaient pas dans les résultats jamais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui passait à côté et disait « Ah, cette personne-là est malade, puis elle ne l'a jamais su, puis elle est morte. »
Oui, parce que c'est le danger de mettre toutes les mains dans la décision dans les mains du AI parce que c'est on n'est pas encore rendu tout à fait là.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'algo, vu que c'est à plusieurs paliers, comme tu expliquais, c'est dur dans ce code-là de dire une raison, le pourquoi que l'algo a choisi ce chemin-là
pour référence donner au la bonne réponse.
Puis ça devrait s'en venir, là, ajouter une raison à chaque node de décision. Mais ça reste que ça ne fera sûrement pas de sens quand tu vas lire le tout.
Oui, mais le deep learning, il n'y a personne qui est capable de comprendre pourquoi le chemin a été fait. Et puis ça, c'est un énorme problème parce que les humains aiment ça comprendre c'est quoi le chemin de réflexion. Puis le deep learning, on n'est pas capable de comprendre pourquoi il est arrivé à la conclusion. Même si celle-ci est exacte, même si les résultats sont quand même assez...
meilleurs que qu'est-ce qu'on a fait avant, mettons.
Oui, ouais, mais on ne comprend pas pourquoi il est arrivé à cette conclusion-là.
Exact. C'est comme le move du jeu Go, que l'ordinateur a fait le move que personne n'avait jamais fait avant. Puis personne n'a compris pourquoi il faisait ce move-là. Puis l'ordi a gagné à cause de ce move-là.
Ouais, c'est tout à fait drôle, mais en même temps, d'un point de vue attaquant, puis tant qu'à Samson dans la sécurité, on a découvert au niveau de la reconnaissance d'image. Et on s'agit, c'est pas très, très difficile.
Ah oui.
Le AI, puis il y a un article qui est sorti très récemment où ce qu'il appelle l'éléphant dans la pièce, c'est du moment qu'il rajoutait un éléphant dans le dessin ou dans l'image. Le AI ne comprenait plus ce qui se passait, n'était plus capable d'identifier les choses correctement, qui était capable d'identifier précédemment. Donc, ce qui était la table, il trouvait plus c'était quoi, ou il disait que l'éléphant était rendu une chaise. C'est tout à fait fascinant à quel point tout ça est très, très fragile.
Exact, parce que les échantillons d'analyse ou ce que le learning est fait est tellement strict ou basé sur des trucs trop parfaits que quand tu rajoutes des trucs imparfaits qui arrivent tout le temps, finalement. Ça brise l'algorithme. Puis, tu sais, dans les attaques qui existent, ils vont juste mettre une image brouillée. Tu vas avoir juste plein de pixels, puis ça va dire que c'est un chien, tu sais, parce que c'est de l'analyse de bite puis de données. C'est pas de l'analyse d'image comme l'humain fait. C'est les, vraiment les points de, dans les bits, dans les bytes. Donc, tu peux briser ouais. tout juste avec la logique.
Ouais, entre autres, puis de toute façon, on revient sur le fait que c'est toute une question de contexte, puis l'IA n'est pas tout à fait encore apte à bien maîtriser le contexte. Mm-hmm. Donc, oui, si on regarde maintenant, on nous parlait beaucoup de 2018 et avant, 2019, pour toi, ça va ressembler à quoi?
Je pense pas qu'il va y avoir de méga gros changements. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui est mis, comme j'expliquais un peu, sur mettre la sécurité plus simple pour les utilisateurs. Oui, les choses vont vers là dans les gros joueurs aux États-Unis. Mais en termes de sécurité puis attaque, et comme on a fait une petite référence tantôt, la base est souvent pas là. Tant qu'on n'a pas un concept de mettre la base en place, on va refaire cet épisode-là chaque année. C'est triste, mais c'est ça, tu sais. Je suis encore... Non, c'est ça. Mais en même temps, il y a des éléments qu'on devrait manquer de job dessus pour focusser ailleurs. Mais tu sais, je me souviens plus récemment à qui je parlais, mais le concept des mots de passe, que certaines entreprises sont comme, hey, il faut que ce soit, mettons, 15 de long avec des caractères spéciaux, avec des majuscules, il faut le changer aux 2 mois. C'est comme, non, surtout pas. Pourquoi tu penses qu'il y a des post-it partout? Mettez rien de compliqué dans votre mot de passe. Faites juste vous assurer qu'il est long et que ce n'est pas une phrase connue. That's it.
Ouais, mais
au minimum.
Ça, puis pour avoir des discussions, moi, je suis très favorable au changement de rituel de mot de passe parce que je trouve ça complètement insignifiant comme toi. Par contre, il nous faut que, comme organisation, avoir des mesures de suivi, de détection, de choses comme ça pour s'assurer qu'effectivement,
ben, ouais. on se passe.
C'est le problème. Et là où les entreprises ne sont pas bien outillées, c'est qu'elles ne sont pas capables de déceler si le mot de passe a été utilisé de façon ou été exposé. Puis
dans des brèches et autres. Oui, exact. Mais même sans ça, juste en mettant des mots de passe plus longs, mais plus simples, ou en utilisant un password manager puis du 2FA, juste ces 3 éléments-là, là, on corrige tellement de problèmes.
Ouais, ouais.
Dans la plupart des entreprises, c'est incroyable. Fait que, je pense qu'il faut mettre un gros push là-dessus, là, c'est certain.
Il y a bien des années, effectivement, sur un des projets sur lesquels j'étais, on s'est fait imposer des affaires comme 8 de long, complexe, changement en 45 jours. C'est une affaire qui n'a pas de sens. Puis je m'étais opposé à cette sorte parce que dans le groupuscule dans lequel j'étais à ce moment-là, on avait cette capacité de s'opposer. Et on avait opté pour une... Ben en tout cas, j'avais proposé qu'on opte pour des mots de passe plus longs. Je pense que c'était 12 ou 14 de long. On les changeait aux 3 mois, 90 jours. Puis on n'exigeait pas de complexité. Puis de là, on changeait le fardeau parce que c'est plus âgé, plus de facilité. Puis de même, de point de vue purement mathématique, quand on fait la démonstration... Un mot de passe, je pense, de 12 ou 14, c'était beaucoup plus robuste s'il est simple, même s'il est simple qu'un mot de passe.
Ah, oui, oui, effectivement. Si on parle d'entreprise, d'entropie tout simplement pure, là, 100% random, 13 de long, c'est presque impossible à retrouver. Là, tu sais, c'est assez. Là, quand on met le contexte que les personnes utilisent des vrais mots, ben, c'est sûr, il faut que ce soit 20, 25 ou un password manager. Là.
Oui, ça amenait, en tout cas, ça amenait la réflexion en ce sens-là. Puis effectivement, mais je pense pas que moi non plus, en 2019, il y a beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a connu en 2018. Peut-être même une accélération de nouveau des leaks, on risque d'avoir encore beaucoup plus de fuites d'informations, on risque d'avoir peut-être une prise de conscience au niveau américain, parce qu'ils sont en train de le faire, mais peut-être davantage où ils vont changer le cadre législatif.
Ouais. Hein, mais je pense que la prise de conscience canadienne commence un peu en retard, évidemment, mais elle arrive, ça c'est sûr. Le point qu'on voit dans les conférences, que ce soit ACFES, DEFCON et autres, c'est vraiment le mashing d'outils ensemble, puis l'automatisation côté attaque. On commence à le voir du côté défense, là, de créer des outils automatisés pour faire les SOC et autres, d'oublier tout ce qui est les appliances Magic. Mais c'est ça, au Québec, on est plus ou moins là. C'est juste avoir une compagnie qui dit on va faire 100% du open source pour développer des alertes une après l'autre. On peut les compter sur le doigt de la main, peut-être. Mais,
mais ça, puis là, tu parles d'open source, au niveau de la collaboration, ouais. Je sais qu'au Québec, on n'est pas très fort sur la collaboration.
Oui, ça, c'est un autre bon point, oui.
Même d'un niveau mondial, je n'ai pas vu énormément des grands efforts. Aux États-Unis, il y en a un petit peu, mais c'est encore très timide.
Le plus gros est géré par Facebook. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va être, qu'il va percer beaucoup au Québec, voire Europe. C'est le Threat Exchange de Facebook que toutes les grosses entreprises
vont
inviter dessus. Comment, excuse?
C'est pas AlienVault, OTX?
Non, même pas. C'est une plateforme privée que Facebook gère pour faire du threat exchange, de justement dire, hey, voici, nous, on se fait attaquer sur telle affaire, puis tout le monde partage ces choses. C'est un genre de MISP, si on peut dire. puis les grandes entreprises sont sur ça et se partagent justement le knowledge, l'intelligence des attaques. Puis au Québec, ça, à part les banques qui se parlent ensemble, les compagnies d'assurance qui se parlent ensemble, les gouvernements ne se parlent pas à deux cubicules. Fait que on est loin de là, là.
Ouais, c'est un peu décevant ce manque de collaboration-là.
Mm-hmm.
Pour ma petite expérience au gouvernement du Québec, ce que je déplore un peu, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule façon d'échanger de l'information entre les ministères et organismes, c'est les consultants qui portent ce fardeau-là et non les internes.
Ils se promènent d'une place à l'autre. Puis,
parce qu'on se promène.
Exact. Puis, une des choses que j'ai fait cette année, j'avais donné une formation dans un certain ministère. Puis je pense qu'il y avait peut-être 20-30 personnes. Puis l'élément clé qui est ressorti d'une formation de 2 jours, quand même semi-technique, c'était que tout le monde qui était assis dans la formation, qui était toutes des personnes en sécurité à différents niveaux, là, de opérationnel jusqu'à architecture, ne se parlaient pas. Aucun. Fait que ma recommandation finale, après 2 jours, elle est venue avant, mais je veux dire, récapitulation à la fin, c'était de dire, ben, créez-vous une mailing list ou peu importe, là, mais parlez-vous au lieu de toujours dupliquer tout ce que vous faites, à refaire chacun de votre bord de manière différente. Les mêmes projets, les mêmes logiciels. Des fois, c'était pas les mêmes logiciels, pas les mêmes affaires. Il y en a un qui détectait des attaques techniques, l'autre détectait rien, l'autre faisait ci, l'autre faisait ça. Fait que, tu sais, à l'intérieur d'un même ministère, je parle pas des 80 organismes qui existent, là, juste de un, ça se parlait pas, fait qu'imagine le reste.
Ouais, c'est un peu terrible que même si un seul n'est pas capable de faire circuler l'information à l'intérieur de sa propre organisation, imagine maintenant à l'intérieur de ce que l'ensemble du gouvernement peut être. Là. Puis on parle au Québec, là, mais au Canada puis des autres provinces.
Ah oui, exact.
D'autres provinces similaires. Là.
Puis là, on parle de choses de base, de dire, hey, moi, de mon bord, j'ai besoin de détecter telle chose, toi, détecter telle autre affaire. Là, après ça, tu passes au niveau suivant. Mettons que, ouais, on a fait un pentest, on a découvert qu'on était vulnérable à tel type d'attaque. Ça, c'est peut-être que 80% des ministères sont vulnérables à celle-là, puis personne ne se le dit. Là. Ils se partagent même pas ces rapports-là. Puis souvent, ils ne partageront pas parce qu'ils ont comme peur de divulguer leur sécurité ou leur chose, mais ça cause un méga gros problème au final. C'est que tout le monde a les mêmes attaques, personne ne s'aide. Ouais,
on est encore un peu dans cet univers-là. Effectivement, les gens ont un peu la frousse de divulguer les faits qui sont un peu plus... moins bien outillé. Je commence à voir dans certains ministères dans lesquels où j'ai des amis, du moins, il y a quand même avoir des efforts. Il commence à avoir des affaires qui se passent un peu plus que ce qu'on a vu par le passé, mais c'est encore des efforts timides, d'échange d'informations souvent informels. Moi, dans mon cas, c'est juste parce que je connais bien des gens un peu partout, fait que je suis comme une espèce de...
Oui, exact.
Un peu d'informations avec des gens que je connais, puis qui posent des questions, puis je trouve ça très bien. Je fais ça de bonne foi puis de façon en général, bien souvent gratuite en plus.
Mm-hmm.
Mais ce qui finalement permet que l'information circule à l'intérieur du gouvernement, puis je trouve ça essentiel.
Ouais, mais c'est la base de tout. Là. Si tu n'es pas capable de savoir puis ce qui se passe, ben c'est sûr que tu n'as aucune idée quoi faire par la suite. Là. Puis ça, c'est un des autres gros problèmes qu'on n'a même pas du tout abordé puis qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est les inventaires. Tu sais, fait que...
Les inventaires, les affaires de genre savoir qu'est-ce que c'est ton réseau?
Ah! Colin! On est en 2018 puis j'ai trouvé un Windows 98 qui roule, je ne le savais pas. Tu sais, j'ai encore vu ça passer sur Twitter cette semaine, sans blague, là. Je veux dire, il y a 10 ans, j'en avais vu moi aussi. Il y a quelques années, on a vu des choses similaires. Ça arrive toujours. Le problème de l'inventaire, c'est le numéro 1. Là, si vous regardez les talks de Microsoft, puis on a déjà parlé au Hackerspace et autres, Le numéro 1 pour faire la sécurité, c'est savoir ce que tu as dans ton réseau, c'est l'inventaire. Fait que si vous êtes en train de faire du threat hunting, courir après des malwares et autres, puis vous ne savez pas ce que vous avez sur votre réseau, ça ne donne rien ce que vous faites là. C'est de l'effort dans l'eau. Oui, tu vas faire un peu, ça va t'aider un peu, mais tu sais, si tu as un Windows NT qui roule à côté et tu es en train de faire du reverse de l'autre, ça te donne quoi?
Oh. Ouais, c'est un peu, on revient un peu à Sun Tzu, le fait qu'il faut que tu te connaisses toi-même, connaisses ton ennemi, si tu as le moindre chance d'avoir, de remporter
une bataille. Ouais, tout à fait. Puis pour donner une anecdote qui date, celle-là, je pense que c'est 2010, ou en tout cas, peu importe, ça fait longtemps, mais un certain ministère n'avait pas patché aucun de ses serveurs depuis 4 à 6 ans parce qu'il ne voulait pas déranger la prod. Et quand j'ai fait un scan, voilà. Un scan bâtard, là, on s'avait fait appeler pour faire, je pense que c'était un Nessus dans le temps. Là. Il voulait juste peser sur le piton puis avoir un truc externe. Dire, hey, on l'a fait, là, compliance, whatever. Je suis allé voir le gars, le responsable. J'ai dit, c'est bizarre, là, mais tu sais, j'ai juste des exploits qui sortent, qui datent de 4 à 6 ans. Ah, il dit, c'est normal, on ne patch pas rien ici. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi je fais ça puis je perds mon temps totalement? Puis pourquoi tout simplement?
Ouais, c'est un mauvais usage de l'argent aussi, là, dans ce cas-là.
Ah, ça n'a aucun sens.
Tu connais la réponse.
Oui, tu connais la réponse en plus. Tu veux juste checker une box. Tu peux pas perdre ton budget au final. Là. Ça devait pas mal être ça, la réponse.
Ah là là. Bon, ça fait que sur ça, on va fermer cet épisode sur lequel on a permis d'un peu de faire un état de la nation.
Un état de pas mal tout, mais...
Ils vont pas bien, finalement.
Ça va pas bien, dans un sens, mais en même temps, je pense que c'est juste de refocuser les efforts qui sont présentement en cours sur un point, justement, l'inventaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en vont là-dessus. Mais aussi sur la sécurité, et pas juste sur des attaques sexy, mais de repenser au processus, à l'architecture, au design de base, pour faire les choses comme il faut. Je dis pas que c'est facile, mais c'est là que l'effort devrait être.
Faudrait-on que 2019 soit encore une légère amélioration par rapport à ce qu'on a vu, en espérant qu'il n'y ait pas autant de leaks qu'en 2018, parce que moi, ça ne regarde pas bien, là, mais il faut que les gens commencent à comprendre plus.
Oui, exact. Tout à fait. Puis, ben, au plaisir de tous vous reparler dans quelques semaines. L'année prochaine.
On va continuer à vous entretenir sur plein d'autres sujets. Il y en a plein d'autres qui vont apparaître dans l'actualité. C'est sûr que les gens vont encore faire. Malheureusement, n'auront pas appris leur leçon en 2018. Fait qu'en 2019, nous pourrons encore en parler de les rencontrer. Et sur ça, nous souhaitons une excellente année 2019.
Bonjour tout le monde. Merci.